The Craft Project est un média engagé à faire grandir l'appétit pour les métiers d'art en donnant la parole à ceux qui les exercent. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit en mêlant la technique du virtuose, la malice de l'inventeur et la poésie du créateur. Professionnels des métiers d'art, étudiants, institutions, écoles, passionnés, au carrefour de tous les acteurs du secteur, nous écoutons, nous racontons, nous relayons, nous rassemblons. Nous sommes engagés pour montrer les métiers d'art tels que nous les vivons, exigeants, créatifs, innovants et désirables. Nous sommes engagés pour contribuer à ce que les métiers d'art soient plus souvent choisis, plus souvent transmis et plus souvent achetés. Nous sommes engagés parce que nous voulons résister à l'uniformisation du monde et que nous pensons que l'art de la matière est une arme pour faire à nouveau régner la beauté dans nos cités, dans nos vies et dans nos cœurs. Je suis Raphaëlle Lebeau et aujourd'hui j'interroge Aurélien Meyer, fondateur d'Atelier Blâme. Vous avez tous vu son Pégase galopant sur la Seine ou son ballon volant au-dessus de Paris. Avant la consécration des Jeux Olympiques de Paris 2024, dont il a réalisé les plus belles œuvres, Aurélien Meyer a bâti un studio-atelier unique en son genre, qui allie l'ingénierie, la recherche artistique et l'artisanat. Bonjour Aurélien Meyer.
Bonjour.
Je viens d'entendre le meilleur dans meilleur. Et ça, ça s'appelle un aptonyme, quand on a le nom de ce qu'on fait.
C'est vrai, c'est quelque chose qui me suit depuis que je suis enfant. C'est quelque chose qui m'a motivé aussi, d'ailleurs dans mon existence. Parce qu'il fallait l'être. Ça avait son charme aussi, je trouvais.
Et c'est une Raphaëlle Lebeau qui vous dit ça.
C'est ça.
Donc on est au bon endroit.
On a le beau et le meilleur.
La pression qu'on se met sur cette conversation. Alors Aurélien, comment la matière est entrée dans votre vie?
La matière est rentrée dans ma vie très jeune, très très jeune. Avec un père ébéniste qui m'a vraiment aiguillé vers la matière, vers le beau d'ailleurs aussi. C'était une joie assez grande que de découvrir un petit peu ce monde, de découvrir des matériaux qui me plaisaient aussi, de découvrir la forêt, de comprendre ce qu'était un arbre, de comprendre ce qu'était un arbre abattu, de comprendre ce qu'était une planche, etc. Donc c'est...
Et vous avez compris parce que vous l'avez observé ou vraiment il a pris le temps et vous a raconté ?
Je pense qu'il a orienté mon regard sur le végétal avant même de m'orienter sur le mobilier. C'était assez délicat et ça passait par des promenades, des balades en forêt, que ce soit le week-end, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, etc. Mais c'était des grandes balades aussi en forêt, dans la nature, qui m'ont conduit vers justement l'apprentissage du vivant.
Et alors ça s'est fait naturellement quand il a été temps de choisir ces formations-là, disons 15 ans. Le chemin a été clair ?
Je ne sais pas s'il était clair, mais je pense que c'était assez évident finalement aussi, mais sans que ce soit vraiment clair. Je savais ce vers quoi je voulais aller, je comprenais aussi quelles étaient mes affinités avec les matériaux, avec le trait, avec le dessin, etc. Donc ouais, je pense que j'y suis allé assez naturellement.
Et vous n'avez pas eu besoin de convaincre vos parents de faire un métier manuel, vous ?
Ah non, c'était facile, c'était ultra facile. Ouais. Presque trop évident d'ailleurs. J'ai pas voulu aller dans un métier trop manuel. Je voulais libérer aussi un peu mon esprit, donc j'ai fait les beaux-arts. Et j'ai trouvé que c'était une formation qui était magnifique, avec des rencontres qui étaient très très belles aussi, qui m'ont amené aussi au-delà de la matière, qui m'ont amené vers la pensée. Donc c'était très chouette.
C'est pas rien de s'autoriser à faire les beaux-arts quand on vient d'un milieu artisan.
Ce n'est pas rien, mais il y a un petit passif familial avec des artistes, avec des ingénieurs, avec des architectes, des gens qui ont créé cette culture un peu familiale de la pensée, du concept, de la beauté, etc. Parce que je pense qu'il y avait énormément de tableaux autour de moi, il y avait énormément de gravures, parce que j'ai un arrière-grand-père qui était un très grand graveur français, donc ça m'a aussi aidé à aller chercher ce trait, à comprendre un petit peu les contours du dessin et ce qu'on pouvait y mettre à l'intérieur.
D'accord, alors donc on est aux Beaux-Arts, et là vous sortez diplômé des Beaux-Arts, et qu'est-ce qui se passe ?
Je sors diplômé des Beaux-Arts, et puis je fais beaucoup de choses. Je fais des belles études aux Beaux-Arts, je me sens bien aux Beaux-Arts, je m'épanouis énormément, je travaille énormément, mais vraiment énormément. Je pense que j'ai mûri quelque chose de très fort là-bas. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à plonger dans les bouquins, dans les livres d'artistes, dans les dessins des autres, et j'ai produit une forme qui était une belle forme aussi artistique, qui a eu pas mal d'échos.
Alors, forme artistique, concrètement?
Concrètement, j'ai exploré le dessin à fond, avec ce lien un peu familial qui était assez chouette, avec ces burins que j'avais encore de mon arrière-arrière-grand-père que je trouvais assez beaux et qui me fascinaient déjà. Je suis allé en litho, j'ai fait évidemment de la gravure, j'ai fait beaucoup, beaucoup de dessins, j'ai fait beaucoup de sculptures aussi. J'ai arpenté les ateliers des beaux-arts à fond pour essayer de voir un peu comment j'étais à l'aise avec la matière, sachant que je l'étais déjà parce que, enfant, je voyais déjà des poutres et des bouts de bois dépasser de l'atelier de mon père, et ces bouts de bois allaient même jusqu'à dans la salle de bain parce que son atelier était attenant à la maison. Donc j'étais déjà dans les copeaux, j'étais déjà dans les senteurs du bois et des vernis. Il y avait déjà ça enfant, et après c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi aux Beaux-Arts d'aller découvrir d'autres choses, d'aller explorer des choses qui m'étaient mises à disposition, donc c'était vraiment chouette.
Alors, fast forward, enfin, en avance rapide, même si on va après prendre tout notre temps, mais vous continuez à dessiner aujourd'hui à la main ?
Je continue à dessiner, je continue à prendre du temps pour faire de la photo, je prends du temps pour moi aussi pour essayer de trouver de l'énergie dans ce savoir, dans cet équilibre aussi de forme qu'on trouve aussi très difficilement sur du papier. C'est toujours un peu difficile de construire des choses et d'imbriquer mes idées avec mon dessin, mais je le fais tous les jours.
Alors, donc on arrive à parler du sujet pour lequel vous êtes devenu très connu d'un coup là, qui s'appelle Atelier Blam. Racontez-moi cette histoire et pourquoi Blam d'abord ?
Pourquoi Blam ? Parce que c'était quelque chose qui était assez dynamique, qui correspondait bien aussi à mon esprit il y a plus de 10 ans maintenant. J'avais envie d'avoir un nom qui soit un peu efficace, qui marque un peu les esprits. Donc mon entreprise porte ce nom maintenant depuis plus de 10 ans. Donc ça, c'est un choix où maintenant, ça pourrait être un autre nom, mais c'est Blam aujourd'hui. Et Blam est connu de tout le monde.
Vous dites ça pourrait être un autre nom parce qu'à l'époque, vous qui étiez artiste et puis à la manœuvre, évidemment, de cette entreprise, de cette aventure entrepreneuriale, vous auriez pu mettre votre nom. Et vous avez choisi d'avoir un nom collectif.
J'aurais pu mettre un autre nom, et ça, j'y ai pensé longtemps, j'y pense encore des fois aujourd'hui, mais je trouve que ce qui est chouette aussi dans mon aventure, c'est le collectif que j'ai pu créer autour de moi et toutes les compétences que j'ai pu rassembler. Et je trouve ça assez beau de construire un monde un peu nouveau où c'est pas forcément le nom que je porte qui fait ma marque, mais c'est plutôt une entité comme celle de Blam qui porte aussi le savoir-faire des autres.
Alors justement, racontez-nous comme si on ne connaissait rien. C'est qui, c'est quoi, c'est comment Atelier Blam ?
Je pense que c'est une envie qui est venue quand j'étais aux Beaux-Arts. J'avais déjà ce truc, un peu je construisais des œuvres pour d'autres, d'ailleurs pour la plupart de mes professeurs des Beaux-Arts, je faisais fonctionner l'atelier de mon père, qui était donc ébéniste. Il me le mettait à disposition le samedi et le dimanche, et le samedi et le dimanche, je construisais des œuvres pour mes professeurs dans cet atelier-là. Donc j'ai vite compris que c'était aussi hyper intéressant. Je me nourrissais aussi de la pensée des autres, du dessin des autres, du savoir-faire des autres pour construire ces pièces-là. J'ai trouvé que c'était un moment absolument magnifique.
Pardon, vous les faisiez payer ?
À l'époque, oui.
Et en super, fait... un vrai entrepreneur qui naît.
En fait, ce qui était chouette, c'est que j'avais un père ébéniste, une mère cuisinière. J'ai financé mes études en fabriquant des pièces pour d'autres. C'était un moyen pour moi de subvenir déjà mes besoins, de construire un peu aussi mes relations. Ça a été une manière de vivre, hein, tout simplement.
Oui, non, mais c'est sûr, ça paraît évident, mais tout le monde n'aurait pas osé le faire, en fait. De facturer à des professeurs que vous admiriez beaucoup, sur quelque chose que vous saviez faire, que vous faisiez très naturellement. Et vous avez tout de suite senti que vous aviez une valeur et que cette valeur, elle pouvait représenter de l'argent. Et c'est comme ça que vous êtes, j'imagine, vous avez pu être entrepreneur. Parce que vous aviez cette conscience-là et que vous pouviez créer de la valeur avec vos idées, vos mains et vos pensées.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que mes parents ont véhiculé beaucoup, plein de belles choses, en tout cas dans mon éducation et dans l'éducation de mon frère et de ma sœur. Mais c'est vrai qu'il y avait cette idée d'aller fabriquer sa richesse, quoi, de se débrouiller par soi-même pour essayer de subvenir à ses besoins. Et ça, c'est une valeur très forte, très jeune.
En tout cas, énorme classe d'avoir ses profs comme premier client. Ça, j'avais jamais entendu encore. Donc, ok. Et ça vous lance sur Blam. C'est-à-dire, c'est ce que vous avez vu aussi, c'est le marché qu'il pouvait y avoir à travers les artistes qui ont besoin d'esprits hybrides pour réaliser leurs œuvres.
C'est ça. Mais en fait, la vraie histoire aussi, c'est que j'ai vraiment excellé aux Beaux-Arts. J'ai eu la chance de faire la Biennale de Venise, d'avoir des prix de photographie. Je me suis vraiment très investi dans mes études. Ça m'a déjà fabriqué mentalement, en tout cas, en tant que jeune artiste. Et ça m'a donné déjà une puissance que j'essayais d'appréhender avant. Et j'étais très à l'aise avec ça, avec cette idée de pouvoir produire des œuvres, etc. Mais c'est vrai que j'ai aussi été très à l'aise très vite en produisant les œuvres des autres.
Oui, ça c'est original, d'être à la fois artiste et au service des artistes. Et ça rejoint le fait que vous ayez un atelier avec un nom collectif, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu d'ego pour vous dans cette histoire.
Bah, il n'y en a pas, dans le sens où, encore une fois, je pense que c'est aussi important que tout le monde puisse se retrouver dans une histoire un peu collective. Et je le vois au sein même de mon atelier, parce que mon atelier n'est pas qu'un atelier, c'est aussi une agence. Mais entre les architectes, les ingénieurs, les personnes qui sont avec des profils artisanaux, tous ces gens s'y retrouvent assez bien, en tout cas dans mon écriture et dans la pensée globale de l'atelier Blam. Et chacun vient capter, choper un petit peu ce qu'il souhaite. Et je félicite tout le monde quand tout le monde travaille bien. On emporte collectivement aussi la réussite, donc c'est assez chouette, quoi.
Parce qu'on n'a toujours pas pitché, donc dit en une phrase, l'atelier Blam, peut-être qu'on va le dire en 45 minutes de podcast. Mais en une phrase, à un client, vous dites quoi?
Je dirais que c'est un atelier vraiment pluridisciplinaire qui croise un petit peu les mondes, justement l'ingénierie, l'architecture, l'artisanat et le design. Je pense que c'est un endroit un petit peu hybride qui est assez poreux. Tout le monde échange avec tout le monde et on construit nos objets tous ensemble.
Alors je pense qu'on va bien comprendre en prenant un exemple que tout le monde aura vu et connu, c'est l'œuvre, les œuvres des JO. Donc à ma connaissance, le cheval au galop sur la Seine, c'est vous? La vasque olympique dessinée par Mathieu Lehner, c'est vous? Il y a autre chose?
Pour la JO, il n'y a que ces deux éléments-là.
C'est déjà pas mal. Alors racontez-nous cette aventure, ça a commencé combien de temps avant 2025? Est-ce que c'était un appel à projet? Est-ce que c'était vos idées? Le cheval, il est sorti de votre tête?
Alors oui, le cheval est sorti de ma tête, mais aussi d'une discussion que j'ai pu avoir avec Thomas Joly, qui voyait comme ça sur la Seine un vrai cheval au galop. Sa pensée a nécessité quelques aménagements. C'était pas si évident de construire un petit peu cet échange et de venir le nourrir. Mais j'ai commencé à dessiner sur un bout de papier un cheval un peu mécanique avec en dessous une sorte de sous-marin. Donc l'idée a vraiment émergé comme ça.
C'est tout là, on s'arrête là, mais moi je veux beaucoup plus d'histoires. Je suis partie, je suis en train de vous regarder avec la tête sur ma main. Je veux plus croustillant que ça. Ça a l'air facile là.
Ça a l'air facile. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais l'histoire, elle commence avec la vasque olympique. C'est EDF qui vient chercher l'atelier Blam pour réaliser un objet qui est encore mal défini au début, qui n'existe encore pas, qui n'existe que dans les pensées. Il y a cette première écriture d'EDF en 2012, ils définissent une sorte de flamme un peu décarbonée. Ils essayent d'aller chercher ça, justement, pour casser le monde du carbone et du pétrole. Ils cherchent une autre voie, une intuition d'une flamme décarbonée avec de l'électricité et de la nébulisation, et qui viennent me chercher avec cette idée-là, en me disant « Aurélien, on va peut-être fabriquer une vasque, on ne sait pas exactement quel diamètre elle fera, peut-être 2,50 m, peut-être 3 mètres, mais dans l'idée, on aimerait aller chercher un peu cette technologie-là, est-ce que vous êtes OK pour nous accompagner dans ce projet-là » Et là, je dis oui aussi, je dis oui rapidement. En décembre 2022, on commence à faire de la recherche, on fait des premiers protos pour voir comment on peut développer cette flamme avant de développer cette vasque. Donc on fait plein de recherches à l'atelier, on mélange un peu tous les matériaux, on plie, on soude, on met des premiers tubes lumineux, on amène de la brumisation, de la nébulisation, on fait énormément de recherches. Pendant plus de 6 mois, on fait des recherches et des recherches et des recherches, on cherche la couleur de la flamme, on cherche la texture de la flamme, on cherche tout. En fait, on y va très profondément. Parce qu'on sait qu'il y a quand même une vraie complexité dans ce travail-là, c'est d'aller séduire des gens comme Thomas Bach, des gens comme Tony Estanguet. Tout le monde peut penser que c'est facile, mais quand on arrive avec une flamme décarbonée et qu'on casse une histoire qui est écrite depuis des décennies... avec
des millénaires, la magie du feu.
La magie du feu. On essaye d'amener un petit peu cette nouvelle vision de la flamme, etc. Donc on construit l'histoire avec EDF, on construit l'histoire avec Mathieu Lehner, on construit l'histoire avec Tony Estanguet. On essaye de faire en sorte que cette magie opère, que cette flamme puisse exister dans les yeux des autres. Et ça, ça a été super compliqué. Parce qu'on a tellement d'habitude, cette flamme, elle invite tellement au changement. Changement d'attitude, changement de maîtrise, changement de relation, même avec presque l'appréhension du feu, on change tout, quoi. Vraiment, le plus gros du travail, il a presque été là.
Alors, j'ai eu la chance de rentrer dans la vasque olympique et de m'approcher de cette flamme. Et justement, c'est drôle, j'étais en train de me dire ça, c'est que vous avez réussi à transmettre la magie du feu parce que j'ai pas osé m'approcher. J'ai absolument pas osé même mettre la main. Il y avait encore tout ce sentiment, cette présence, ce souvenir du feu dans une matière, dans une réalité beaucoup plus douce et accueillante et invitante.
Et oui, ça, c'est particulier, ça. C'est hallucinant. Vous avez votre corps qui vous dit non et vos yeux qui vous disent oui, ou l'inverse. Il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette relation à ce feu. Ça habite, en même temps ça fait peur, ça.
Ouais.
C'est super beau, moi, je trouve que cette puissance qui se mélange à cette douceur, c'est très étonnant.
Et c'est vraiment, alors bon, je donne mon petit avis dans mon podcast, mais c'est vraiment la mémoire archaïque avec une vision extrêmement futuriste qui sont au même endroit. Et en effet, il y a quelque chose de très qui fige totalement dans le présent.
Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis, ce qui est vraiment étonnant, c'est que la magie opère chez tout le monde. Que vous soyez un vrai professionnel du feu, on a eu le cas avec des pompiers, on a eu le cas avec plein de personnes de corps de métiers différents. Chaque personne a eu ce même contact, ce feu-là. Chaque personne a eu cette distance ou cette mise en distance au début pour après comprendre que la main pouvait aller vers le feu.
Bravo, bravo, c'est vraiment un beau travail de magicien, d'ingénieur, d'artiste et d'artisan.
C'est vrai, puis au-delà du feu, c'est aussi construire aussi la vasque, c'est construire le réceptacle de cette flamme, faire en sorte que tout soit beau, que la flamme, évidemment, soit belle, mais que tout ce qui existe autour soit beau aussi.
Chaque câble, la distance entre les câbles.
C'est ça, puis ce qui est vraiment chouette avec le parcours que j'ai et de la manière dont aussi je conduis mon équipe, c'est de faire en sorte que la discussion puisse se faire facilement avec Mathieu Lehaneur, avec des gens qui aiment aussi la culture de l'objet, qui aiment la culture du détail. Vous comprenez très vite que l'alchimie, elle prend et que la relation va être facile. Avec Mathieu, ça a été super facile. On s'est mis vraiment presque dans la seconde, on s'est compris. On a compris qu'on voulait aller au-delà et on savait que lui aussi voulait aller au-delà, donc on était presque dans l'amour, on était dans la même quête, quoi. Très vite, on a senti ça.
Alors justement, dans les relations que vous pouvez avoir avec les autres créateurs, les autres artistes, il y a une longue histoire avec les frères Bouroulec.
Il y a une histoire qui remonte à des années. Je suis évidemment très très attaché à Renan Bouroulec. J'ai eu la chance de croiser ses noms très très jeunes. J'ai fait une première année de Beaux-Arts à Quimper. Il s'avère que Renan et Erwan sont quimpérois. Nous avons eu les mêmes professeurs Beaux-Arts. Donc en première année des Beaux-Arts, les professeurs que j'avais à l'époque m'ont invité à aller voir Renan et Erwan. Et l'histoire a commencé.
Ils étaient déjà connus ?
Non, en fait, c'était assez marrant parce que ces professeurs de dessin, ces professeurs de peinture m'invitaient à aller rencontrer des jeunes émergents. Et ils me disaient, Aurélien, je pense que vous avez des choses à vous dire, vous avez des choses à faire ensemble, va les voir. Et j'ai mis un peu plus de 10 ans à aller les voir.
Pourquoi ?
Ben, je me sentais pas juste avec moi-même. J'avais besoin de me découvrir un peu plus, de comprendre un peu où étaient mes compétences, de comprendre un peu mieux qui j'étais. Et le hasard de la vie a fait qu'un ami à moi, Cyril Mérien, m'a invité à aller travailler avec Renan Bouroulec.
Et ça a commencé comme ça. Alors juste là, comme ça, si vous avez un conseil pour comprendre qui on est, c'est comment ? Vous avez fait comment, vous ? Aussi jeune ?
Je pense que j'ai essayé de découvrir un peu plusieurs mondes. Je suis allé dans le cinéma, j'ai travaillé dans le théâtre, je suis retourné dans le théâtre. J'ai aussi beaucoup dessiné énormément d'objets, de design. J'ai fait plein de choses. J'ai construit avec mes mains, j'ai dessiné aussi énormément de pièces complexes. J'ai compris qu'il fallait aussi passer du temps et un temps long pour aller au fond des choses. Donc j'ai travaillé énormément. Je suis allé vraiment à la recherche de tout, j'ai essayé d'analyser tout, de comprendre tout. J'ai mis énormément de temps à analyser des bouts de texte dans des encyclopédies et comprendre des dessins. J'ai mis une énergie folle pour ça.
Explorer et travailler.
Je pense que le travail, c'est une belle chose, une très belle valeur pour moi.
Alors, on n'a pas du tout assez parlé de mon cheval au galop. Je trouve toujours que ça a eu l'air trop facile. Est-ce qu'il y a eu des échecs, des effrois à un moment de ce projet ?
Je pense qu'il n'y a eu que ça, je pense que je pourrais presque écrire un livre sur ce sujet. Non, je crois que ça a été une des plus grandes aventures de ma vie, je crois que ça a été quelque chose de fou. complètement dingue. Je pense que la vasque était aussi un élément juste incroyable. Je pense que les deux qui se conjuguent, qui s'additionnent, c'était un des moments les plus forts, évidemment, de mon existence. Ça a été une histoire absolument dense, énergivore. Ça a été vraiment le truc le plus fou de ma vie. Déjà, de m'engager, d'engager mon entreprise, d'engager les personnes qui travaillent avec moi dans des projets comme ça, sachant que clairement, nous sommes absolument tout petits, on est une petite équipe d'une vingtaine de personnes. Nous engager de cette manière-là sur la vasque olympique et ce cheval, sur des temps très très courts, très contraints, c'était une folie.
Temps court, ça veut dire quoi? Combien de temps?
Pour la vasque olympique, on a commencé en décembre 2022. Un temps extrêmement court pour concevoir une pièce complexe comme celle-ci. C'est pas un objet mobilier standard, c'est aussi un objet qui vole à 60 mètres de haut dans un contexte urbain très fort, etc. Donc ça demande énormément de rigueur, énormément de temps. Ça demande aussi à rassurer tous les partis, que ce soit la ville, la préfecture.
Bien sûr.
Pour rassurer tout le monde, se rassurer soi-même. Et c'est la même chose pour ce cheval. Et presque ce cheval, c'est une histoire encore plus grande et plus forte parce que j'ai de la chance d'avoir dessiné ce cheval, d'avoir créé cette histoire autour de cette sculpture. Donc ça a été pour moi un engagement très fort. C'était une manière aussi de montrer au monde ma capacité à pouvoir produire une pièce remarquable, permettre aussi à mon équipe de m'accompagner de cette même manière et de montrer qu'elle était également capable de produire une pièce remarquable. Donc chacun y a mis de son énergie, de sa force et de sa qualité de travail. Et on a essayé de produire une œuvre vraiment remarquable. Je voulais vraiment que ça parle de l'atelier Blam, que ça parle d'Aurélien Meyer, que ça parle de tous les membres de l'équipe, et que ce soit aussi un objet qui soit gracieux, qui soit subtil, qui parle de cette richesse qu'on essaye d'amener dans ce monde, de cette beauté qu'on essaye de porter chaque jour. Je voulais que ça parle de tout ça.
Donc ça y est, en fait, non seulement vous avez trouvé qui vous étiez, mais vous avez réussi à le montrer au monde entier.
C'est complètement vrai. C'est une très belle manière de résumer cette histoire et de sortir un petit peu du bois ou de se montrer un petit peu au reste du monde et de montrer notre qualité. Ça, c'est vraiment hyper important. Ça a été très fort, encore une fois, de choisir aussi de le faire de cette manière-là. Parce que c'était une sortie qui était brutale, qui était forte, qui était immédiate, qui était spectaculaire. C'est presque une histoire qui se jouait à un instant bien précis, le 26 juillet. Tout aurait pu rater, ça aurait pu être une catastrophe absolue. Au final, ça s'est transformé en une très belle réussite, mais je pense que j'aurais pu tout casser. J'aurais pu casser ces deux beaux jouets le même soir, ça aurait été horrible, mais ça aurait pu être possible.
Alors j'ai plein de questions, mais là il y a une question justement sur qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après en termes de business, de notoriété, d'intérêt du public, d'intérêt des professionnels?
En termes de notoriété, ça change énormément de choses. C'est hallucinant même d'ailleurs, je pense que c'est surprenant, c'est vif, c'est tellement puissant. J'ai reçu des milliers de messages clairement, des milliers de demandes. Et je pense que ce qui a été vraiment très beau dans cette histoire, ça n'a été que des beaux messages. J'ai pas reçu de mauvais mots ou de choses complètement déplacées. J'ai reçu vraiment que des super beaux messages, des super beaux dessins, des super belles sculptures, des très belles photos. J'ai eu ce sentiment de produire de la joie, de produire quelque chose d'une finesse. J'ai senti l'amour, j'ai senti la poésie, j'ai senti vraiment des mots d'une tendresse juste incroyable. Et ça, c'était pour moi la plus belle, des émotions.
Je comprends. Alors justement, à propos de récompenses, moi je suis une poète, une rêveuse comme vous, mais je suis aussi une entrepreneuse comme vous. Et du coup, je me pose la question financièrement. Est-ce que vous êtes portée financièrement pendant tous ces temps de recherche ou est-ce que c'est votre atelier qui prend aussi un risque financier? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est risqué? D'un point de vue financier et entrepreneurial, cette aventure, c'était comment?
Moi, clairement, tout est risqué. Je pense que ça a été risqué du premier jour au dernier. Ça a été encore une fois une folie, même entrepreneuriale, c'était complètement dingue. En fait, on a construit l'histoire, j'ai construit l'histoire de ce cheval. Je pense que la demande initiale de Thomas Joly, ou si tant est qu'elle était évidente, c'était aussi de produire quelque chose de spectaculaire. Moi, j'ai voulu produire un objet, j'ai voulu produire une sculpture, j'ai voulu parler de l'excellence française, j'ai voulu parler de notre capacité à traiter un objet d'une manière presque horlogère, de traiter une sculpture, d'amener toute cette beauté. Je pense que j'étais déjà parti à plusieurs milliers de kilomètres de la discussion initiale. Donc ça a été construire ça, construire cet objet, construire aussi les finances qui vont avec cet objet, de sortir du cheval en papier et d'aller chercher quelque chose de beau qui parle de la feuille d'argent, qui parle de mécanique aussi, qui parle d'anodisation, qui parle d'aluminium, qui parle de sculpture, encore une fois, ou de martelage. Ça a été compliqué d'expliquer ça, d'expliquer le fait que ça allait potentiellement devenir un objet héritage, que ça allait devenir un objet qui allait marquer les JO, qui allait marquer l'artisanat français, le design français, l'art français. Mais je pense que j'ai porté fort ce message. Je l'ai martelé, comme la coque de ce cheval. J'ai martelé ce message et en fait, ça a pris. Et je pense que j'ai eu en face de moi des gens qui ont compris ce vers quoi je voulais aller et qui m'ont accompagné financièrement. C'était pas bien financièrement, mais c'était plus viable après qu'avant.
C'est ça, donc vous étiez à peu près à l'équilibre par rapport à l'énergie autant engagée par vos équipes ?
Non, je pense que de toute manière, je pense que le vrai message, c'est de dire que soyez heureux de prendre ces projets-là, vous aurez une notoriété après qui sera grande et financièrement, vous serez récompensé après. Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai, on est tout prêt. Mais ce que je veux dire, c'est un risque qu'on fait prendre aussi à des petites entreprises. C'est pas très simple. Mais une fois que vous avez assumé ça, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est d'y aller, quoi.
Et alors justement, la suite, c'est quoi ? Déjà, la suite, avant de connaître la suite dans la réalité, la suite dans vos rêves, qu'est-ce qu'on fait après ça ?
Après ça, on fait tout avec la même intensité. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de changement. Je pense que j'ai toujours envie de faire des choses très belles. J'ai toujours envie de mettre autant d'énergie dans tous les projets que je fais. Je ne fais pas de distinction entre les petits et les grands objets, enfin, je ne sais pas où, les grands projets. J'y mets toujours la même intensité. Je pense que là-dessus, je suis un rail. Et c'est difficile de me mettre en défaut.
Vous pouvez nous parler de projets en cours ? Il y en a dont vous avez le droit de parler ?
Alors, beaucoup de projets sont un peu secrets, parce qu'il y a des très très beaux projets qui sont en train de s'écrire. Il y a aujourd'hui un très très beau projet, plusieurs projets de lustre d'ailleurs, qui sont un petit peu dans les tuyaux de l'atelier Blam, des projets qui appellent des matériaux d'une très grande noblesse. Tout est très très ciselé aussi, très travaillé. Je pense que ça va être des projets absolument magnifiques.
Si demain je vous remets à l'établi, vous êtes sur quel poste, vous êtes sur quelle matière, avec quel outil dans la main ?
Alors ça, c'est un truc qui me va très très bien. J'y pense en venant. C'était lié à mon activité de cet après-midi, mais je crois que ce qui me fait aussi la qualité de mon travail et de la force des propositions que je peux faire aujourd'hui, c'est que j'y vais encore. Je travaille encore les matériaux. C'est vraiment une envie, c'est un besoin. C'est aussi une manière d'exister dans mon groupe, au sein même de mon entreprise, leur montrer que je porte une attention particulière à ce qu'ils font. Je ne suis pas un mec qui gère du business, je ne suis pas un mec qui gère que des interfaces avec des clients, etc. Je sais faire, je veux faire. Je pense que mon œil est très affûté. J'ai une certaine forme d'habileté à regarder les choses, à prendre du recul. Et ça, c'est super important pour moi encore de faire et de fabriquer.
Et ça se passe comment chez vous, la transmission, le recrutement ?
Alors ça, c'est très facile. J'ai énormément de demandes. J'ai un truc qui me suit depuis très longtemps aussi. J'ai été enseignant à l'école d'architecture. J'ai fait beaucoup de présentations aussi en école d'ingénierie, en école de design, en école d'art. Et très naturellement, la jeune génération vient vers nous. Je pense qu'il y a aussi ce besoin, en tout cas cet intérêt pour les mondes croisés. Et ça réveille énormément de pensées, d'envie. Donc j'ai énormément de demandes.
Que vous ne pouvez absolument pas satisfaire.
Que je ne peux pas satisfaire. En tout cas, c'est que je regarde quand même des beaux parcours, je regarde aussi des personnes qui ont des sensibilités qui peuvent s'approcher des miennes et du reste de mon équipe. Donc je suis très attentif à ça. C'est que quand je vois un beau CV ou un joli book bien mené avec une attention que j'arrive à voir, j'y vais.
Vous y allez, mais vous ne pouvez pas recruter tout le monde. Vous y allez en faisant quoi ? En donnant des conseils ? En les gardant à l'œil pour l'avenir ?
Oui, les deux, je pense que je fais très attention à bien répondre. à leur dire des mots justes, à les accompagner si besoin. Si on me demande de relire des choses ou de reconstruire une autre histoire avec quelqu'un d'autre, je peux le faire et je le fais. J'essaie d'être attentif, d'être bienveillant. Voilà, je pense que s'il y a des mots qui collent aussi à cet univers un petit peu Atelier Blâme, c'est la bienveillance. Je pense que c'est super important. Je pense que c'est la loyauté aussi, c'est très important pour moi. Il y a plein d'autres des mots, mais je pense que c'est deux mots qui me plaisent beaucoup. Et le petit dernier qui me plaît aussi énormément, c'est de travailler dans la joie. Et je vois que j'ai une équipe joyeuse. Ça, pour moi, c'est presque la réussite absolue d'avoir ces gens qui sourient, qui rigolent, qui prennent du bon temps ensemble. C'est génial, ça.
Alors aujourd'hui, vous êtes 20. Si vous aviez beaucoup de projets, est-ce que demain, vous pourriez être 80? Ou est-ce que pour vous, il y a une limite de croissance pour que vous soyez bien?
Nous sommes 20 aujourd'hui, nous étions 45 il n'y a pas très longtemps, en tout cas pour les projets des JO. On fait travailler des centaines de sous-traitants, on sait changer d'échelle, on sait grandir. Ça, c'est assez facile, c'est très naturel. Mais on sait aussi revenir sur nous-mêmes et on sait prendre aussi du temps pour nous. Donc ça, c'est aussi chouette. Mais si Blâme devait être une entreprise de 80 personnes, peut-être. Si les projets sont beaux et si l'envie d'y aller est là, pourquoi pas, hein.
Et votre attachement à votre territoire, est-ce que Blâme pourrait exister ailleurs qu'à Nantes?
Alors Blâme pourrait peut-être exister ailleurs qu'à Nantes. Et en même temps, je pense qu'on y est très très bien. On a un site vraiment absolument remarquable. Et moi, je le trouve absolument génial. Nous avons un superbe atelier, mais vraiment très très bel atelier, dans un endroit qui s'appelle le Paradis. Et il porte très bien son nom, parce que nous sommes au milieu des marais. Ce marais est absolument magnifique. Il y a énormément d'aigrettes, de cigognes, d'oiseaux remarquables. Je pense qu'il y a aussi ce cadre qui alimente un petit peu nos yeux, nos regards sur le monde. Donc je suis très très bien à Nantes. J'aime la Loire, j'aime les gens là-bas, j'aime y vivre. Donc pour l'instant, Blâme et Nantais.
J'espère que j'aurai le plaisir de venir voir cet atelier. Parce que maintenant, j'ai envie d'entendre les oiseaux et puis j'ai envie de parler aux vins, là, savoir qui ils sont, d'où ils viennent. Enfin, voilà, ça pique la curiosité, tout ça. Il y a une question que je ne vous ai pas encore posée et que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a des anges gardiens dont vous auriez envie de parler aujourd'hui, des personnes, des hommes, des femmes, qui vous ont permis d'avoir la route que vous avez eue?
Ouais, je pense qu'il y a des gens qui m'accompagnent encore aujourd'hui, qui m'accompagnent un peu dans mes pensées. Je pense déjà à ma famille, à mes parents, hein, qui ont tout fait pour essayer de m'ouvrir les yeux sur ce monde. J'avais des capacités par moi-même, mais je pense que c'était aussi intéressant d'avoir des gens qui ont rendu possible les choses, qui ont développé mon esprit entrepreneurial aussi, sans vraiment le savoir d'ailleurs, par la débrouille, par tous ces trucs qui ont fait que de toute manière, j'avais cette capacité à pouvoir y aller. S'il y a des gens qui je dois remercier, c'est des personnes comme Ronan Broulec qui m'aident beaucoup et qui est une personne vraiment très, très subtile, avec qui j'adore échanger, avec qui j'adore parler, qui a fait aussi que mon atelier existe aussi aujourd'hui. C'est des gens comme ça qui comptent pour moi.
Ça, c'est un ange gardien, c'est validé comme ange gardien complètement. Alors, on a une question qui finit souvent les podcasts. On connaît une fée clochette des métiers d'art, et en fait, la fée clochette, c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont dans cette communauté. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette magique? Qu'est-ce qui reste à faire pour exaucer vos vœux?
Dans mon travail, je pense que je suis très heureux, j'ai une très belle vie, une très belle existence. Nous avons une très belle reconnaissance aussi, ça fonctionne super bien. Je pense que ce qui m'intéresserait énormément, c'est d'avoir aussi du soutien de l'État, de certains ministères, pour essayer de porter notre savoir-faire aussi à l'international. Je trouve que ça nous manque beaucoup. On a du mal à trouver du lien avec l'étranger. On a du mal à exporter notre savoir, et ça, je trouve ça dommage. Je pense qu'aujourd'hui, d'avoir des grands soutiens, ça serait vraiment idéal.
Vous n'êtes pas en lien encore avec le Mobilier National? Peut-être que c'est avec eux que je vais venir visiter l'atelier.
J'ai absolument aucun lien avec ces entités-là, c'est assez étonnant. C'est un peu cette ambiguïté, certains problèmes qu'un atelier comme le mien peut encore avoir.
Merci Aurélien Meillard.
Merci beaucoup.
Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcasts. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project.